Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue en ce magnifique après-midi de sabbat. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors que nous entamons ce message, il y a une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent, nos yeux. Lorsque vous regardez quelque chose, par exemple, lorsque je vous regarde, vous ne pensez pas vraiment à vos yeux en particulier. Vous vous contentez de regarder ce que vous regardez. Je vous regarde, et vous me regardez, et nous nous attendons simplement à voir une image nette. J'espère que vous me voyez clairement, tout comme je vous vois clairement en ce moment. Dieu a créé l'œil humain d'une manière incroyable. Pensez à l'œil humain avec toutes ses parties. Or, l'œil humain, l'œil lui-même, n'est qu'une partie du système visuel. Votre cerveau et certains nerfs jouent un rôle, mais Dieu l'a créé d'une manière unique et remarquable. Nous pouvons aujourd'hui nous concentrer un peu sur nos yeux en réfléchissant à quelque chose auquel nous ne pensons pas souvent. Vous êtes-vous déjà demandé, chers amis, comment il est possible qu'avec deux yeux, on ne voit qu'une seule image? J'espère que vous ne voyez qu'une seule image de moi ici, devant ce pupitre. Il ne devrait pas y en avoir deux en ce moment, mais vous ne voyez qu'une seule image. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le fait d'avoir une vision double peut être considéré comme un problème médical et souvent comme une urgence? Quelque chose à corriger ou dont il faut déterminer la cause, quel est le problème de cette vision double? Or, bien que nous ayons deux yeux, le cerveau nous permet de voir deux images distinctes. Le cerveau joue un rôle en fusionnant ces deux images que vous et moi voyons. Nous voyons deux images légèrement différentes, mais le cerveau les combine, les fusionne en une seule et même image. Si vos yeux ne fonctionnent pas ensemble, mes frères et sœurs, s'il y a un problème au niveau de vos yeux, la vision peut devenir floue. Elle peut devenir double, ce qui peut être grave. Or, Christ nous a donné une leçon importante au sujet de l'œil. Il a enseigné une leçon très importante, et c'est ce que nous allons approfondir un peu aujourd'hui. Veuillez ouvrir vos Bibles avec moi au chapitre 11 de Luc. Pour une raison bien précise, Christ a voulu nous enseigner une leçon spirituelle importante concernant nos yeux. Et je suis sûr qu'en parcourant ce passage ensemble aujourd'hui, cela sera une source d'inspiration pour nous tous, comme cela l'a été pour moi lorsque j'ai préparé ce message, mais regardons, si vous êtes avec moi dans Luc chapitre 11. Pour replacer le texte dans son contexte, nous allons commencer au verset 33. Puis lire les trois versets suivants. C'est un court passage. Christ dit au verset 33, Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un endroit caché, ni sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. L'accent est mis ici sur le fait de montrer la lumière. Que la lumière brille. Lisons le verset 34. La lampe du corps, c'est l'œil. C'est intéressant d'y réfléchir. La lampe du corps, c'est votre œil. Cela signifie qu'il est comme une lampe. La lampe du corps, c'est l'œil. Là, Christ met l'accent sur l'œil physique. C'est pourquoi, lorsque ton œil est simple, tout ton corps est aussi plein de lumière. C'est un objectif que toi et moi voulons atteindre, avoir un corps plein de lumière. Tout ton corps est aussi plein de lumière. Mais lorsque ton œil est mauvais, le corps est aussi plein de ténèbres. Or, Christ a mentionné ici une réflexion pour nous, une mise en garde, un point sur lequel nous devons nous concentrer. Prenez garde. Faites attention afin que la lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres. Si donc tout votre corps est rempli de lumière, sans aucune part de ténèbres, il sera tout entier rempli de lumière, comme lorsque la lueur éclatante d'une bougie vous éclaire. C'est ce que vous et moi voulons être spirituellement. Nous voulons être remplis de lumière, sans aucune part de ténèbres. Mais Christ a spécifiquement mentionné ici, si votre œil est simple. Alors, frères et sœurs, examinons aujourd'hui ce que signifie avoir un œil simple. Spirituellement parlant. Mais aussi, comment se prémunir spirituellement contre la double vision, contre la perte de cette simplicité de l'œil. Allons-y et abordons ces, et nous allons le faire de deux manières simples. Vous vous demandez peut-être tous, qu'est-ce que cela signifie d'avoir un regard unique? Qu'est-ce que cela signifie? Pour nous en prémunir, nous devons d'abord savoir ce que c'est. Et Christ a utilisé l'exemple physique de l'œil, il est donc utile aujourd'hui que je passe un peu de temps avec vous sur l'œil physique également. Or, l'œil, comme je l'ai mentionné plus tôt, est un organe intégré, mais il n'a qu'une seule fonction. Il comporte de nombreuses parties. Je vais simplement vous montrer quelques-unes des parties les plus importantes. Vous pouvez approfondir le sujet et découvrir qu'il y a de plus en plus de parties, de plus en plus d'éléments spécifiques de l'œil. Mais je souhaite me concentrer uniquement sur quelques-unes d'entre elles pour bien faire passer le message. La claire, c'est cette partie blanche de votre œil. Souvent, quand quelqu'un vous jette un regard en coin, c'est difficile pour moi de le montrer ici, depuis ce pupitre. Si vous avez une acuité visuelle de 20/20, vous pouvez peut-être le voir. Mais pensez à votre chien lorsque vous lui donnez un ordre. Si vous avez un animal de compagnie ou si quelqu'un vous jette un regard de travers, vous dites « il me regarde de travers » ou « votre chien m'a regardé de travers ». Vous lui avez dit que vous vouliez l'emmener faire ses besoins, et il vous a regardé de travers. Que s'est-il passé? Vous avez vu le blanc de son œil ou celui de la personne. Elle ne vous a pas regardé droit dans les yeux. Elle a légèrement détourné le regard, l'a déplacé d'un côté ou de l'autre, et vous avez alors dit, « Pourquoi me lances-tu un regard en coin ?» Eh bien, c'est justement le blanc de l'œil. C'est la grande partie qui constitue la majeure partie du globe oculaire, pourrait-on dire, cette partie d'un blanc pur de l'œil. On peut parfois y distinguer des vaisseaux sanguins. Mais ensuite, on voit la cornée. La cornée est principalement la partie que l'on ne voit pas vraiment quand on regarde quelqu'un droit dans les yeux, car elle est transparente. Cela signifie qu'elle laisse passer la lumière. Quand on regarde le côté des yeux, on peut voir un léger renflement sur l'œil d'une personne, cette partie transparente, et c'est la cornée. C'est la première partie de l'œil qui joue un rôle dans la mise au point de la lumière lorsqu'elle traverse votre œil. Mais quand on regarde à travers la cornée, ce que l'on voit la plupart du temps, mes frères et sœurs, c'est l'iris. Quand on pense à l'iris, on pense à la beauté d'une fleur, et on pourrait presque dire que c'est la beauté de votre œil. C'est ce qui donne à votre œil sa couleur si particulière. Bon, je vais vous révéler un petit secret à ce stade. Nous étions mariés depuis 5 ans. Un jour, ma femme s'en est rendue compte et m'a dit « Tu as les yeux verts ». Je croyais que tu avais les yeux bleus. Avec des yeux verts, la couleur des yeux peut changer légèrement lorsque l'on porte une chemise bleue. Parfois, vos yeux peuvent paraître bleus, mais ma femme a longtemps cru que j'avais les yeux bleus avant de se rendre compte, non, en fait, mon mari a les yeux verts. C'est un sujet de plaisanterie entre nous, mais c'est bien la couleur de vos yeux, cette partie distinctive qui leur donne leur couleur. Au milieu de l'iris se trouve cette tache noire, la pupille. Lorsque vous êtes au soleil, c'est un petit point précis de l'œil, cette tache noire située exactement au centre de l'iris. C'est cette ouverture qui permet à la lumière de pénétrer dans votre œil. Lorsque vous vous trouvez à l'ombre, cette petite pupille s'élargit, Les muscles de l'iris l'élargissent, et vous remarquez parfois que, lorsqu'une personne se trouve dans l'obscurité, à l'ombre ou dans une pièce sombre, sa pupille est légèrement plus grande que lorsqu'elle est exposée au soleil. Cela peut donc varier en fonction de l'intensité de la lumière qui pénètre dans l'œil. Parfois, lorsque vous allez chez le médecin et qu'il procède à un examen ophtalmologique, vous avez envie de détourner légèrement le regard, mais il examine votre œil et vous dit « Non, votre pupille est soit dilatée, soit pas. Elle est juste de la taille d'une tête d'épingle, ou bien elle est un peu plus grande. » Parfois, lors d'un examen, on vous instille des gouttes ophtalmiques qui dilatent davantage la pupille afin de pouvoir examiner le fond de l'œil. Mais il est important que vous sachiez, mes frères, qu'il y a cette petite tache noire. Puis le cristallin. Il y a la chambre antérieure de l'œil, puis le cristallin, qui est lui aussi transparent. C'est la deuxième partie de l'œil qui focalise la lumière. La cornée s'en charge, et le cristallin, associé à la cornée, contribue également à focaliser la lumière. Où la lumière se focalise-t-elle lorsqu'elle pénètre dans votre œil? Sur la rétine. La rétine comporte plusieurs parties, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Si l'on pense à un appareil photo numérique d'aujourd'hui ou à un appareil photo ancien, la forme correspond au capteur de votre œil, c'est là, à l'arrière de l'œil, que se trouvent les cônes et les bâtonnets sensibles à la lumière, qui transmettent ensuite des signaux à votre cerveau et vous permettent de voir grâce aux cônes, notamment de distinguer les couleurs. Je peux voir différentes couleurs aujourd'hui, des robes, des chemises et des cravates. Et quand on parle de la couleur des yeux, vous pouvez distinguer la couleur des yeux de quelqu'un. Ce sont ces cônes qui vous permettent de le faire. Les bâtonnets vous permettent de voir la nuit, lorsque l'environnement est un peu plus sombre. Voilà ce qu'est l'œil d'un point de vue physique, mes frères et sœurs, lorsque l'on examine ces différentes parties. D'un point de vue fonctionnel, pensez-y. Comme je l'ai mentionné au début, vous avez deux yeux. Ils doivent fonctionner ensemble. Quand je regarde à gauche, les deux doivent se tourner vers la gauche en même temps. Quand je regarde à droite, ou que je regarde vers le haut ou vers le bas, ils doivent fonctionner ensemble pour créer cette image unique que votre cerveau va former. Si les deux yeux sont légèrement décalés, vous commencerez alors à avoir ce qu'on appelle une vision double ou une vision binoculaire. Ils fonctionnent donc ensemble, mais au final, c'est le cerveau qui crée cette image unique. Maintenant, amusons-nous un peu et montrons-vous, mes frères, ce qui prouve que nous voyons en réalité deux images. Et nous allons faire un test simple ensemble. Si vous prenez votre index et que vous, le bras tendu, je regarde au fond de la salle, et avec mon index, je pointe quelque chose, une chaise là-bas au fond de la salle. Vous pouvez me pointer du doigt, ou pointer le pupitre ou les fleurs, et vous gardez votre index là. Ensuite, vous fermez un œil, tout en gardant l'autre ouvert. Je ferme d'abord mon œil gauche, puis je ferme mon œil droit et j'ouvre mon œil gauche. À présent, l'œil qui est ouvert, et le doigt pointe toujours exactement là où il était. Si vous m'avez pointé du doigt et que votre doigt est toujours sur moi, disons que lorsque vous ouvrez votre œil gauche, et que je suis caché derrière votre index, cela signifie que votre œil gauche est l'œil dominant. Lorsque vous ouvrez votre œil droit, je suis peut-être un peu à droite de votre doigt. Cela signifie que je suis dominant, c'est ce qui s'est passé. Je suis dominant avec mon œil gauche. Lorsque vous êtes dominant avec votre œil droit ouvert, ce doigt restera toujours au-dessus de l'image que vous avez montrée. Sinon, si vous ouvrez votre œil gauche, votre doigt se trouvera légèrement à droite de cet objet. Donc, si vous me regardez et que votre doigt est légèrement à ma droite, Cela signifie que lorsque vous regardez avec votre œil gauche, c'est votre œil droit qui est dominant. Lorsque votre œil droit est ouvert, je suis hors champ. Je suis derrière votre doigt. C'est donc simplement une façon, mes amis, de démontrer de manière simple que nous voyons en réalité deux images différentes, mais que le cerveau les fusionne ensuite en une seule. Quel est l'intérêt? Pourquoi ai-je pris autant de temps pour passer en revue l'œil d'un point de vue physique, vous montrer ces différentes parties et vous faire faire un petit test? Mes frères, l'intérêt est très simple. Vos deux yeux travaillent ensemble pour créer une seule image. Ils reçoivent la lumière et la focalisent. Ils ont une seule mission. Toutes ces parties s'assemblent. Même les deux yeux s'associent à la fonction du cerveau pour créer une seule image. Un seul, votre œil est unique. Vous voyez une seule image. Vos yeux n'ont qu'un seul but. Ils n'ont qu'une seule fonction. Ils ne font qu'un. Recevoir la lumière, la focaliser pourquoi? Pour que vous puissiez me voir clairement. Tout ce que vous regardez peut être clair et simple. Les jeunes hommes présents dans cette salle ont peut-être pensé, Monsieur Villioen, je croyais que mes yeux étaient là pour regarder dans les yeux d'une jeune femme et simplement regarder au loin. Je pensais que c'était la fonction de mes yeux. C'est l'une des fonctions de vos yeux, mais c'est peut-être le sujet d'un autre message. Celui-ci est beaucoup plus axé sur la fonction, la véritable fonction de votre œil, physiquement parlant, et non pas simplement sur quelque chose que vous espérez, même si c'est certainement une bonne chose à espérer. Nous avons donc parlé des aspects physiques, du fait que l'œil physique n'a qu'une seule fonction. Mais qu'en est-il sur le plan spirituel, mes frères? C'est là où nous voulons en venir, n'est-ce pas? L'unicité du regard signifie une concentration sans partage. Une attention sans partage portée sur votre relation avec Dieu, la voix de Dieu, le royaume de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui concerne Dieu. Vous et moi sommes appelés à avoir un regard sans partage, un regard unique. Et maintenant, la question que vous pourriez vous poser est, ai-je un regard unique? Un esprit unique? Nous avons dit que le cerveau jouait un rôle. Vous voyez donc que dans les Écritures, parfois, Christ, ici dans Luc 11 et Matthieu 6, parlait de l'unicité du regard, mais à d'autres endroits, il parle de l'unicité de l'esprit, et c'est en grande partie la même chose. Il s'agit d'avoir une attention sans partage portée sur Dieu, sur son plan pour vous et pour l'humanité. Mais il y a là un élément de sincérité, un élément de simplicité, mes frères, ainsi qu'une certaine droiture. Quand on examine ce mot unicité, c'est bien cela qu'il signifie. Donc, encore une fois, la question que vous pourriez vous poser est, est-ce que je possède cela? Allons voir Éphésiens, chapitre 1. Avant de le lire, je vais vous donner la réponse. Oui, vous possédez l'unicité du regard, mes frères. Allons voir Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Éphésiens, chapitre 1, verset 18, dit clairement, les yeux de votre cœur, de votre esprit ayant été éclairés. Dieu nous a donné, lorsqu'il nous a appelés, il a ouvert notre esprit à sa vérité, à sa parole. Nos yeux, les yeux de votre cœur. Derrière cela, nous savons que nous venons de voir que l'œil est unique. Cela signifie que nous avions un seul objectif lorsque Dieu nous a appelés, un seul objectif, son plan. Vous et moi l'avons compris. Vous avez compris votre rôle dans tout cela. Vous étiez enthousiasmé à l'idée d'entendre parler d'un seul et même objectif, faire partie de la famille de Dieu et être dans le royaume de Dieu. Vos yeux, les yeux de votre intelligence étant éclairés, c'est-à-dire remplis de lumière, afin que vous puissiez connaître quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Lorsque Dieu a commencé à œuvrer avec nous tous, nous avions cette perception spirituelle. Nous pouvions voir clairement, saisir la vérité de Dieu. Revenons maintenant au chapitre 11 de Luc. Vous y êtes déjà allé, revenons au chapitre 11 de Luc. Et nous allons lire le verset 34. Nous l'avons déjà lu, mais il est dit, « La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est pur, tout ton corps sera éclairé. Mais s'il est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Le défi, frères et sœurs, pour les chrétiens, n'est pas de développer la pureté de l'œil. Le défi est de protéger ce que nous avons déjà, de veiller à ce que notre regard ne devienne pas flou ou divisé. Nous possédons cette vision unique, mais nous risquons de la perdre. Nous devons la protéger. Passons maintenant à la deuxième partie, nous allons nous concentrer sur la manière de nous prémunir contre la double vision spirituelle. Voyons ce que Christ a dit au verset 35. Il est écrit, « Prenez donc garde que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. » Quelle est la première chose que vous et moi devons faire pour nous prémunir contre la double vision spirituelle? Que devons-nous faire? « Prenez garde » signifie « regarder, observer, fixer son regard, prêter attention ». La première chose que Dieu nous demande de faire, c'est donc de nous examiner nous-mêmes. Se prémunir contre le fait d'avoir ou de devenir indécis, ou d'avoir une double vision, c'est s'examiner nous-mêmes. Passons à la deuxième épître de Jean. Cela signifie que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire à votre place. C'est quelque chose que nous devons faire pour en prendre conscience. Nous devons utiliser nos yeux spirituels, pour ainsi dire, pour regarder, observer, prêter attention. Dieu veut que nous y prêtions attention au quotidien pour nous prémunir contre ce dont nous parlons. Regardons la deuxième épître de Jean. Il est dit ici, au verset 8, « Prenez garde à vous-même », cela signifie exactement la même chose que ce que Christ a dit dans Luc, chapitre 11. Afin que nous ne perdions pas ce que nous avons accompli, mais que nous recevions une pleine récompense. Il est dit, « Veillez sur vous-même, prenez garde, à observer ». Dieu veut que nous utilisions notre esprit afin que nous ne perdions pas ce que nous avons accompli, ce que nous avons, cette détermination, frère, cet œil unique, cette concentration unique. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas perdre cela. Pensez aux doctrines de Dieu, à la compréhension que nous avons, à cette vision claire, à cette compréhension claire que vous et moi possédons. Cela peut se perdre si nous ne veillons pas sur nous-mêmes. Quelle est cette lumière que vous et moi possédons, mes frères? Nous en avons déjà parlé. Allons au psaume 19. Quelle est cette lumière que nous possédons? Ce que Dieu nous a donné dès le commencement, cette lumière éclatante qui nous aide à rester concentrés. Au psaume 19, verset 8, il est dit, nous pouvons reprendre au verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Le témoignage de l'Éternel est fidèle, il rend sage les simples. Les statuts du Seigneur sont justes, ils réjouissent le cœur. La loi de Dieu nous procure de la joie. Le commandement du Seigneur est pur, comme la lumière est pure, il éclaire les yeux. Dieu a utilisé la vérité, mes frères, ses commandements, sa parole, pour éclairer nos yeux dès le commencement. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens, notre intelligence s'est ouverte à cela, et nous avons vu ces choses clairement. Nous avions cette unité d'esprit. Et nous devons continuer à rester concentrés sur la vérité de Dieu, sur les commandements, sur sa parole. Ils sont purs. Ils sont simples. Ils sont clairs. Ils sont sincères, la parole de Dieu, ses commandements, sa vérité. La première étape consiste donc simplement à nous examiner nous-mêmes, à veiller à ne pas perdre ce que nous avons déjà, à garder à l'esprit que nous avons été éclairés par la vérité de Dieu, et à garder cette simplicité au premier plan de notre esprit. Quelle est la deuxième étape, mes amis? Reconnaître à quel point notre attention peut se disperser, comment nous pouvons commencer à perdre notre concentration, à perdre cette simplicité, cette solidité, cette sincérité, et que si nous nous concentrons sur cela, nous risquons de les perdre. Examinons maintenant quels éléments de notre vie peuvent contribuer à développer une sorte de vision double, pour ainsi dire, plutôt que de voir les choses de manière concentrée. Revenons à un exemple physique concernant les yeux. Si vous y réfléchissez, beaucoup d'entre vous ont déjà passé des examens de la vue par le passé, et l'ophtalmologue vous a dit « Je pense que vous souffrez d'astigmatisme ». Cela signifie simplement que la cornée n'est pas aussi, que la courbure de la cornée est un peu irrégulière. La surface de la cornée est irrégulière, donc la lumière qu'elle réfracte, au final, l'image que vous obtenez est un peu floue, elle peut être déformée ou faussée. Je ne vois plus aussi clairement qu'avant. Vous allez passer un examen de la vue, et on vous dit, nous pouvons corriger cela avec des lunettes. Mais cette netteté que vous aviez auparavant, vous commencez à vous plaindre et à constater, je ne vois plus cette image aussi nettement qu'avant. Il n'y a plus de point focal unique et net lorsque la cornée et le cristallin commencent à réfracter ou à focaliser la lumière sur l'arrière de votre rétine. La vision devient légèrement floue. C'est un exemple physique. Passons maintenant au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. Examinons le parallèle spirituel dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Pensons à Paul s'adressant aux Corinthiens, « Mais je crains, de quelque manière que ce soit, de quelque manière que ce soit que le serpent, il y a donc de nombreuses manières, frères, que le serpent ait séduit Ève par sa ruse, afin que vos esprits ne soient pas détournés de la simplicité qui est en Christ. Nos esprits peuvent être corrompus. Cette concentration unique que vous aviez peut être corrompue. Presque comme d'une manière physique, vous pouvez commencer à perdre cette concentration claire et simple, et il est simplement dit, être détourné de quoi? De la détermination ou d'avoir un œil unique, de la simplicité qui est en Christ. Nous avons dit que l'œil unique implique un élément de sincérité, mais aussi de simplicité. La parole de Dieu, la vérité de Dieu, mes frères, ces doctrines sont toutes claires et simples à comprendre. Mais notre esprit humain, avec le temps, notre nature humaine peut se désintéresser, voire parfois s'ennuyer face à la simplicité du christianisme. C'est justement cette concentration constante sur cette image que nous avons qui, avec le temps, peut nous amener à penser, peut-être y a-t-il autre chose que l'on appelle un objet brillant. Peut-être puis-je me concentrer sur cette chose, ou encore, je peux me concentrer sur cette autre chose. C'est trop simple pour moi. Pensez au sabbat, à la compréhension du sabbat. C'est très simple. Après de nombreuses années à l'observer, je comprends le sabbat. Je comprends la dîme. Je comprends la simplicité dont nous devons faire preuve en tant que chrétiens. La communion fraternelle. Nous célébrons les fêtes. Peut-être y a-t-il d'autres choses qui devraient m'intéresser ou sur lesquelles je devrais me concentrer. Et notre nature humaine peut commencer à nous détourner de la simplicité qui est en Christ. Au lieu de renforcer régulièrement notre compréhension et de garder nos yeux fixés sur l'essentiel, nous pouvons commencer à perdre tout intérêt. Nous pouvons nous désintéresser de la connaissance déjà révélée et commencer à nous tourner vers des sujets spéculatifs. Peut-être y a-t-il davantage de choses que je dois comprendre. La Bible et la pureté de la Bible. La simplicité de ce que nous apprenons ne suffit pas. Et nous pouvons commencer à détourner notre attention de l'enseignement clair de la parole de Dieu, de ce qui se trouve dans les Écritures, de ce qui est si clair. Tout d'abord, cela peut détourner notre attention, nous faire perdre du temps ou semer une confusion inutile. Je pense ici à tout le monde. Prenons l'exemple des livres apocryphes. Il y a quelques semaines, je suis entré dans une librairie avec ma femme et j'ai vu le livre d'Enoch, l'un des livres apocryphes. Un livre dont certains diront qu'il aurait dû faire partie de la Bible, mais ce n'est pas le cas. Dieu a décidé qu'il s'agissait d'un livre non authentique, dépourvu d'inspiration divine. Nous n'avons pas à nous concentrer là-dessus. Mais parfois, les gens peuvent se mettre à penser, voilà quelque chose sur quoi je peux me concentrer. Pensez autant qu'il vous faudra pour commencer à lire et à étudier ces choses alors que Dieu dit, ma parole est pure. Elle a été purifiée cette fois. Elle est simple. Elle est claire. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mes amis, de la direction que votre esprit et votre attention peuvent vous faire prendre. Il suffit d'un événement quotidien, ou d'un sujet qui vous intéresse, pour vous éloigner de cette simplicité. Il peut y avoir d'autres aspects de notre nature humaine qui détournent progressivement notre attention de ce sur quoi nous nous concentrons. Le fait de nous concentrer sur autre chose peut semer la confusion et brouiller notre clarté spirituelle, simplement en détournant notre attention de ce qui se trouve devant nous, mes frères et sœurs, la vérité de Dieu. Un autre exemple concret, mes amis, est celui d'un AVC ou d'une lésion cérébrale qui peut provoquer une vision double. C'est un facteur extérieur. Il existe des facteurs extérieurs dans notre vie physique qui peuvent provoquer « vos yeux sont en parfait état », mais cela peut nous amener à avoir une vision double, cette vision binoculaire. Quelqu'un qui a subi un AVC, ou quelqu'un qui est tombé sur la glace, va chez le médecin, et celui-ci lui demande « voyez-vous mon doigt ?» Et la personne répondra « non, je vois deux doigts. » Elle a une vision double. C'est un exemple physique. Voyons maintenant un exemple spirituel, mes amis. Allons à Genèse chapitre 3. Nous venons de parler, dans les épîtres aux Corinthiens, de notre adversaire, le diable. Penchons-nous un instant sur le chapitre 3 de la Genèse. Réfléchissons à ce qu'il a fait à Adam et Ève. Nous avons déjà lu à quel point il était rusé. Lisons le verset 1 de la Genèse. Il est écrit, « Or, le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés. » Et il dit à la femme, « C'est vrai, Dieu n'a-t-il pas dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas non plus, de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas. » Il sema un peu de doute quant à l'instruction de Dieu. Car Dieu sait bien que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et lorsque la femme vit que ses yeux s'étaient ouverts, que son intelligence s'était éclairée, que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Que s'est-il donc passé? L'adversaire, le diable, n'a pas toujours besoin de supprimer complètement la vérité, mes frères. Il lui suffit, pour ainsi dire, de détourner notre attention. Il suffit d'introduire un peu de distraction. Un peu de doute dans une situation. De diviser notre concentration. Il a divisé la concentration d'Adam et Ève à ce moment-là. Dans un moment de faiblesse, on peut perdre toute clarté. Cela a affaibli notre conviction et, en fin de compte, notre obéissance. Il suffit de créer ce petit doute. Est-ce que c'est bon maintenant, ou est-ce que c'est mauvais? L'arbre de ce mélange entre l'arbre du bien et celui du mal. Le problème n'était pas simplement que tout le monde savait qu'il ne fallait pas manger de cet arbre. Il s'agissait de détourner leur attention de ce que Dieu leur avait ordonné. Il a détourné cette attention en créant un petit doute. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Il a détourné leur confiance des instructions de Dieu. Et, mes frères, cela peut nous arriver aussi. Satan agit en divisant notre attention. Le pouvoir de la tromperie. Il a trompé Adam et Ève par cette subtilité parce qu'ils n'étaient pas attentifs. Ils n'ont pas suivi ni pris conscience d'eux-mêmes lorsque Dieu leur a donné cette instruction au commencement. Et, d'une manière tout à fait subtile, Satan se contente de ne pas jeter complètement le bébé avec l'eau du bain, pour ainsi dire. De ne pas aller jusqu'à la désobéissance totale. Il veut simplement que vous voyiez les choses de deux façons différentes. Comme Adam et Ève. D'une manière divisée, en divisant votre attention. Cette double pensée, mes frères, peut mener à l'instabilité. Passons à l'épître de Jacques. Ce sont là les choses contre lesquelles nous devons protéger notre esprit, contre la tromperie. Contre notre propre nature humaine. Allons à l'épître de Jacques, chapitre 1. Nous reprendrons au verset 6, Jacques 1, verset 6. Que se passe-t-il lorsque ce petit doute s'insinue chez chacun, mais qu'il demande avec foi, quiconque demande la sagesse. Puis au verset 5, sans hésiter. Satan voulait qu'Adam et Ève hésitent. Il y aura des situations dans nos vies, mes frères, où nous pourrons nous aussi commencer à vaciller au quotidien. Si nous ne voyons pas clairement ce qui se trouve devant nous, la vérité de Dieu, sa parole, ses doctrines, ses instructions claires, si nous ne nous concentrons pas clairement sur cela, notre esprit peut vaciller. Lorsque Satan sème ses doutes dans nos esprits ou qu'un événement dans votre vie suscite le doute, une situation susceptible de créer le doute. Mais il est dit qu'il ne vacille pas, qu'il ne se demande pas sans cesse, est-ce bien cela, ou est-ce bien cela? Connaissant clairement l'instruction de Dieu, car celui qui vacille est semblable à une vague de la mer, agitée par le vent et ballottée. Que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Si nous commençons à vaciller, frères, dans nos convictions, notre attention peut se diviser. Avec le temps, pensez à la voix de Dieu et aussi à votre propre volonté. Vous vous dites, c'est ce que Dieu veut dans cette situation, mais je voudrais peut-être que ce soit ainsi. Nous faisons confiance à Dieu dans certaines situations, mais dans d'autres, nous commençons à douter de lui. Cela peut nous amener à développer une double orientation. Il est dit ici que l'homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Avoir une double orientation, mes frères, nous fera peu à peu perdre notre stabilité dans d'autres domaines de notre vie. Mais si nous restons fermement ancrés et concentrés sur la simplicité et la pureté de la foi, en faisant confiance à Dieu, sachant qu'il ne nous laissera pas tomber, cela nous aidera à recentrer notre attention sur un seul objectif clair. Pensez à l'exemple physique du désalignement des yeux, ce que l'on appelle en médecine le strabisme. À la naissance, on peut voir que chez les bébés, l'un des yeux regarde parfois d'un côté et l'autre œil de l'autre côté. Ce petit peut alors souffrir d'une légère vision double. Ce petit doute, mes frères, peut finalement conduire à douter de Dieu, bien sûr, mais aussi à devenir instables. Et Dieu veut que nous nous protégions de cela. Quelle autre voie existe-t-il? Luc 9. Une autre, mes frères, consiste à regarder en arrière. Luc 9, verset 62. Et Jésus lui dit, nul, ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière, n'est digne du royaume de Dieu. Il peut y avoir des moments dans nos vies où nous commençons à regarder en arrière lorsque nous traversons une épreuve ou une difficulté. Vous pourriez commencer à repenser à des jours où tout allait mieux. Des jours où les choses étaient différentes dans votre vie. La nostalgie de ce qui appartient au passé. Cela peut diviser votre attention si vous regardez à la fois vers l'avenir et vers le passé. Dieu veut que nous continuions à regarder vers l'avenir avec une seule et même concentration. Gardons notre attention intacte, tournée vers l'avenir, tous ensemble. Sans regarder en arrière. Passons au chapitre 6 de Matthieu. Nous avons étudié Luc chapitre 11. Passons maintenant au chapitre 6 de Matthieu. Nous n'avons pas abordé le même passage, mais il y a des versets qui l'entourent et qui nous aideront à garder notre esprit concentré sur l'avenir. Frères et sœurs, cela vous aidera à garder votre esprit en vous rappelant, je ne dois pas regarder en arrière. Matthieu, chapitre 6, verset 19. Quelle est une autre façon de garder notre esprit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nous pouvons en quelque sorte nous tromper nous-mêmes pour recentrer notre attention. Et comment pouvez-vous y parvenir? Non pas avec vos yeux ou votre attention, mais avec votre trésor, mes frères. Dieu l'a dit juste avant ce passage. Le verset 22 est exactement le même que celui que nous lisons dans Luc chapitre 11. Mais il dit, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où se trouve votre trésor, c'est là que se portera également votre attention. » notre attention quotidienne portée sur des choses qui peuvent détourner notre attention, des choses matérielles, notre trésor, ce qui est important pour nous. Nous nous concentrons sur d'autres choses. En parlant de trésor matériel, d'argent ici, alors que nous passons au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, une attention partagée. En parlant à nouveau de finances ou de notre attention, de loyauté partagée. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Une attention partagée, des priorités concurrentes qui peuvent commencer à brouiller notre vision. Christ a dit à tous, dans Matthieu 6, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il relie directement notre regard spirituel, notre attention, à ce à quoi nous accordons de la valeur et que nous servons. Ainsi, si vous accordez de la valeur à la vérité de Dieu, à son appel, aux choses qu'il nous a données, mes frères, c'est là que se portera notre attention, c'est là même que nous placerons notre trésor, et votre esprit s'y concentrera automatiquement. Tout comme lorsque vous placez votre confiance et vos finances, tout comme les gens placent leur confiance dans le montant de leurs avoirs bancaires, si nous plaçons notre valeur, notre confiance, notre trésor dans le royaume de Dieu, notre cœur et notre attention ne seront pas divisés. Ils seront fermés et clairement tournés vers l'objectif. Avoir l'œil unique signifie que nous recentrons délibérément nos priorités. Ainsi, c'est le royaume de Dieu, et non le gain matériel, qui devient le centre. Mes frères, lorsque nous réfléchissons à l'action, La troisième étape que nous devons franchir consiste à corriger et à maintenir activement notre concentration. Pensez à moi, debout ici devant vous aujourd'hui. Vous m'avez sans doute remarqué que je porte des lunettes de plus en plus souvent. Parfois, naturellement, l'œil commence à perdre sa capacité à faire la mise au point, et il faut faire un effort, il faut activement apporter ces corrections. Avec l'âge, votre esprit commence à faiblir, ou votre regard commence à perdre sa netteté. Et vous devez alors commencer à porter des lunettes. C'est le cas pour moi, je porte actuellement des lunettes pour retrouver cette netteté. Il faut agir activement. Passons au dernier verset. Matthieu, chapitre 6, continuez simplement votre lecture, et le verset 33 dit: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Toutes ces choses, mes frères, qui peuvent détourner votre attention. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous aurions pu nous concentrer aujourd'hui et qui peuvent détourner notre attention. Des désirs intérieurs, des distractions extérieures, des tromperies spirituelles. Mais nous avons examiné quelques moyens de nous prémunir clairement contre la duplicité d'esprit ou la vision double. En nous examinant d'abord nous-mêmes, en nous ancrant dans la vérité et la lumière de Dieu, sa parole. Reconnaître et résister à une attention divisée, puis une correction continue, mes frères. Et recentrer notre attention sur le royaume de Dieu. Un regard unique est un regard protégé et gardé. Et un regard gardé est une vie centrée.